Parce que la question du baptême, c'est une question quand même qui a une place importante dans le plan de Dieu et dans sa parole. Et je vous invite à ouvrir justement vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. Nous allons encore demander au Seigneur de bénir la suite de ces instants. Te remercions, notre Dieu, de ce que tu es vraiment celui qui fait faire de bonnes expériences à ceux qui se confient en toi. Et je te remercie pour ces bien-aimés, Seigneur, tu vois leur profond désir. Et je sais que par ta bonté, par ta puissance, tu vas les soutenir et tu vas les accompagner sans jamais manquer et sans jamais faillir. Tu vas leur faire faire encore de beaucoup de très belles et très bonnes expériences dans ta communion, Seigneur. Tu vas réjouir leur âme, réjouir profondément leur cœur. Et je te remercie pour tout ce que tu opères en leur faveur aussi. Dans le nom de Jésus, soutiens ta parole, Seigneur, qu'elle fasse du bien aussi à chacune et à chacun d'entre nous encore maintenant, dans ces instants qui viennent. Amen. Voilà, Évangile de Matthieu, chapitre 28 et au verset 18, nous lisons ce qui est marqué là. Donc c'est Jésus qui, après sa mort, après sa résurrection, alors qu'il est prêt à être enlevé dans la gloire, s'adresse aux disciples fidèles, et voilà ce qu'il leur dit. Chapitre 28, verset 18. « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. » Je relis le verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Vous savez, le baptême est souvent présenté comme un acte extérieur qui représente une expérience intérieure. Et cette expérience, c'est celle par laquelle nous sortons de la perdition, du chemin de la perdition, pour entrer dans le salut, dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et il est important d'en rendre témoignage publiquement par le baptême, si on a fait cette expérience-là, par la grâce du Seigneur. Donc, mais il est important aussi de considérer la rapidité avec laquelle les premiers chrétiens étaient baptisés après leur conversion. Et aussi l'importance que Jésus et les siens accordaient au baptême. Nous pouvons tout d'abord voir la place que l'Église primitive faisait au baptême. Il n'y est jamais question, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, par exemple, ou les épîtres qui suivent, il n'est jamais question d'un chrétien non baptisé. Au jour de la Pentecôte, Pierre a conclu son message par cet appel solennel, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est dans Actes chapitre 2 au verset 38. Et il nous a expliqué qu'environ 3000 convertis ont été baptisés ce jour-là. C'est dans Actes 2, verset 41. En fait, tous les convertis qui sont mentionnés dans le livre des Actes des Apôtres, ont été baptisés dès leur conversion. Ainsi nous est-il parlé des Samaritains, dans le chapitre 8, au verset 12. Il nous est parlé de l'eunuque éthiopien, chapitre 8, verset 38. Il nous est parlé de Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Il lui est même dit, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ, etc. » Chapitre 9, verset 18. Il est question de Corneille et de sa famille, donc c'est les premiers convertis d'origine païenne. Donc Corneille et toute sa famille, chapitre 10, verset 47 et 48. Il nous est question de Lydie, la marchande de pourpre. Tiens, voilà Lydie, vous voyez. Et de sa famille, au chapitre 16, au verset 15. Il est question du geôlier de Philippe, avec les siens, chapitre 16, verset 33. Et il est question des disciples d'Éphèse, chapitre 19, et au verset 5. Et nous pouvons voir aussi la rapidité avec laquelle ces nouveaux convertis étaient baptisés. Et rien n'indique dans l'Écriture, en Écriture sainte, une période probatoire qui aurait précédé le baptême d'eau. Le baptême se trouvait en fait au seuil de la vie chrétienne. C'était comme ça que c'était considéré. Et dans quasiment tous les cas de conversion qui nous sont décrits en détail, l'insistance est mise sur l'urgence, sur l'imminence du baptême. L'Éthiopien est baptisé immédiatement dans un petit amas d'eau qu'il y avait là au bord de la route, chapitre 8, verset 36. Paul est baptisé, enfin Saul de Tarse à ce moment-là, qui viendra Paul, est baptisé par Ananias dans les heures qui ont suivi sa conversion. chapitre 9, verset 18, Corneille et ses amis ont été baptisés le jour même où ils sont venus au Seigneur, chapitre 10, verset 47, et le geôlier de Philippe avec sa maisonnée furent baptisés à l'heure même, nous est-il dit aussi au chapitre 16, verset 38, en pleine nuit, hein, c'était le cas même. Hein. Et le fait que ce baptême soit pratiqué immédiatement correspond aussi au sens de ce signe-là. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt au Moyen-Orient, en tout cas à cette époque-là, et bon, même aujourd'hui, il en reste encore des traces, la préparation pour l'ensevelissement commence très vite. Hein. Ça commence tout de suite après la mort. Au Moyen-Orient, c'est comme ça. Et ainsi, quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un meurt au péché et à son ancienne vie, eh bien, je dirais, la préparation doit être faite tout de suite pour enterrer l'ancienne vie de péché. Et vous, c'est le sens du baptême. Et le baptême, en quelque sorte, c'est un enterrement de première classe pour l'ancienne vie. Et en même temps, il indique aussi le commencement d'une nouvelle vie. Puisque dans Romains chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul parle de marcher en nouveauté de vie. Et de plus, dans l'Église primitive, les disciples savaient combien l'ennemi, combien l'adversaire peut être subtil. Il savait que le fait de retarder l'obéissance au commandement du baptême, du commandement de Jésus au baptême d'eau, ben ça lui ouvrait la porte au doute. Ça lui ouvrait la porte à la faillite spirituelle et ça empêcherait la bénédiction, ça empêcherait la vie nouvelle. Et les nouveaux convertis ont besoin de confesser publiquement leur ancienne culpabilité et leur nouvel engagement dès que possible, hein, dès que possible, et plus ils attendent, plus pour se faire baptiser, eh bien moins ils en ressentiront le besoin parce que leur conscience va progressivement s'insensibiliser. Et s'il y a parmi nous encore quelqu'un qui réalise maintenant qu'il a peut-être trop traîné ou trop attendu, eh bien écoutez, il est encore temps de changer pour prendre cet engagement-là sans plus tarder. Alors considérons maintenant cinq grandes vérités concernant le baptême d'eau. Premièrement, le baptême d'eau est vital parce qu'il a été ordonné par notre Seigneur Jésus. Donc, juste avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, ce que nous avons lu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ça inclut le baptême d'eau, cette mission-là. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le baptême, vous avez vu, c'est bien encadré. Mais déjà, Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein, c'est en Jean 14, verset 15. Et encore, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est aussi dans Jean 15, verset 14. Et combien l'importance de la question du baptême est rendue évidente par cette première grande vérité. Ensuite, deuxième chose, à propos du baptême, le baptême d'eau témoigne d'une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Et le baptême rend ainsi témoignage publiquement, je dirais, quelque part de notre identification avec Christ, donc, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire aux Galates, dans son épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ou encore, dans Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Hein, donc voilà. Dans Colossiens chapitre 2, verset 12, il ajoute encore, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. » En quelque sorte, le vieil homme est mort, symboliquement enterré dans une tombe d'eau, si on peut parler comme ça. Hein. On raconte le témoignage de cette conversion, ça s'est passé en Inde. Vous savez qu'en Inde, il y a des castes. Et la caste la plus élevée, c'est celle des brahmanes, hein, dans la hiérarchie. Donc, et voilà le témoignage de la conversion d'un brahman, donc en Inde, au Seigneur Jésus-Christ. Il était baptisé dans une salle de réunion, comme celle que nous avons ici, et il est venu à la cérémonie en portant autour de son cou, comme tous les brahmanes, ce qui s'appelle le yagnopavita, c'est-à-dire c'est un cordon sacré qui est l'insigne et le symbole de sa caste et de ses privilèges, puisque, je vous l'ai dit, les brahmanes sont considérés comme la caste la plus élevée de l'hindouisme. Et immédiatement après son baptême, comme il sortait de l'eau, il a enlevé le cordon et il l'a jeté dans l'eau dans laquelle il venait d'être immergé. Et il voulait dire par là que son ancienne vie en tant que brahmane était achevée et que dès cet instant, il marcherait en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ, comme son disciple. Amen. Et ainsi voyons-nous que le baptême, c'est quelque chose qui proclame l'Évangile. C'est quelque chose qui atteste le pardon, la purification des péchés et la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui viennent réellement à Jésus-Christ. Amen. Et puis une troisième grande chose, c'est que le baptême déclare notre allégeance à Christ et le fait que nous nous sommes mis du côté de Dieu. Hein, là aussi, Jésus a dit, vous savez, c'est lui qui l'a dit, Matthieu chapitre 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Les convertis juifs du temps de Jésus, donc, ils croyaient déjà au Père, ils croyaient au Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas accepté Jésus comme fils de Dieu. Hein, donc voilà, c'était la réalité. Et après leur conversion, eh bien, ils devaient reconnaître les trois membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le passage de Matthieu 28. D'où l'erreur de ceux qui prétendent baptiser, par exemple, tout en refusant de reconnaître la Trinité. Hein. Ceux qui refusent cela montrent trois choses. Premièrement, qu'ils ne connaissent pas la personne de Dieu. Deuxièmement, qu'ils ne connaissent pas la Bible. Et troisièmement, qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est un grand point, c'est un point important. Et une quatrième chose encore, le baptême d'eau indique aussi le sérieux de notre engagement envers Jésus-Christ. Voilà. C'est le signe visible qui manifeste, qui scelle notre engagement spirituel. Ça veut dire, je prends Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, et je signe l'engagement. C'est ça que ça veut dire. Il y en a qui vont trouver ça étonnant, surprenant. Vous en avez qui vont dire, oh, mais ce n'est pas la peine de se faire baptiser, on peut s'engager, devenir croyant et s'engager. Le signe n'est pas important, l'important c'est l'engagement. Vous savez, moi je m'aperçois d'une chose, c'est que dans le monde, même le monde inconverti, il n'y a pas cette idée-là. Si par exemple vous allez acheter une voiture, ou si par exemple, je ne sais pas moi, on va vous engager pour un travail, hein, pour acheter une voiture, eh bien dans les deux cas, on va vous présenter un contrat. Hein. Et ce contrat, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec? Il va falloir le signer, il va falloir mettre une signature. Imaginez que vous disiez, oh mais l'important c'est pas ça, l'important c'est pas le contrat, l'important c'est mon intention, c'est mon engagement, etc. Le monde, il ne vous laissera pas repartir avec la voiture et ne vous embauchera pas dans le travail tant que vous n'aurez pas signé. Parce que le monde, il attend les deux choses. Il attend la signature, le signe, et il attend l'engagement. Hein ? Les deux choses. Et c'est logique, et c'est cohérent, et c'est important. Et ainsi, voyons-nous que le signe, c'est quelque chose qui est indispensable et incontournable, autant pour le monde que pour Dieu. Hein ? Donc, et nous promettons à Dieu de venir à lui. C'est donc un engagement qui rappelle aux chrétiens sa promesse, mais en même temps, rappelons-nous, vous savez, s'il n'y a que nos efforts, s'il n'y a que nos intentions, ça n'ira pas loin. Il faut vraiment que Dieu aussi fasse sa part de son côté, hein, sinon on n'arrivera pas, tout ce temps que nous sommes. Combien de fois on a eu de bonnes intentions, on a voulu commencer ceci, cela, on dit « Oh, mais je vais changer sur tel point, et puis je vais faire ceci, je vais faire cela ». Puis ça a tenu quoi ? Quelques jours, peut-être quelques semaines. Puis après, hop, on a replongé dans notre ornière. N'est-il pas vrai ? Hein, ça c'est, voilà. Donc, tandis que lorsque c'est Dieu qui est avec nous, Dieu qui s'engage aussi à notre côté, là c'est différent. Parce que là, il y a effectivement vraiment une puissance et un grand encouragement pour nous. Et c'est aussi dans ce chemin-là que le Seigneur veut nous emmener et nous entraîner. Parce que le baptême, ce n'est pas une fin en soi. On raconte qu'un jour, Billy et Ruth Graham circulaient sur une longue section d'autoroute qui était en construction. Et il y avait beaucoup de ralentissements, de détours, des arrêts en chemin. Et puis finalement, ils sont arrivés au bout de ces difficultés-là. Et voilà qu'une chaussée bien lisse s'étendait devant eux. Et le panneau suivant a attiré l'attention de Ruth Graham. Donc, et le panneau disait « Fin de la construction, merci de votre patience ». Elle a dit « Mais ça, c'est des mots qui vont être très appropriés sur ma pierre tombale un jour ». Fin de la construction, merci de votre patience. Parce que la réalité, ça c'est quelque chose qui convient, je crois, à tous les croyants. Nous sommes des chantiers en construction. Ah oui, tout au long de notre existence, c'est comme cela. Et quand on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on commence un processus de croyance qui va durer toute la vie. de croissance qui va durer toute la vie. Hein. Le Saint-Esprit va agir en nous pour que l'égoïsme s'en aille, par exemple, hein, pour renouveler notre capacité de compréhension, notre intelligence des choses. Il va développer en nous des qualités de plus en plus semblables à Christ. Il va nous aider à avancer dans ce chemin-là. Et l'apôtre Paul décrit ce processus comme une œuvre de Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6, il dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. » Et ça, c'est notre soutien. Ça, c'est notre encouragement. C'est que le Seigneur va nous aider à avancer et à changer de la bonne façon. Amen. Et alors, eh bien, lorsque nous avançons ainsi dans la vie chrétienne, nous collaborons avec Dieu, je dirais, pour ce chantier, ce projet de construction de notre vie. Et quand son œuvre en nous sera complète, il est marqué que nous serons semblables à lui. Alléluia. Hein, c'est dans l'Épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Et enfin, une dernière chose, un dernier point, c'est que le baptême d'eau est un acte d'obéissance envers celui qui vient de devenir notre Sauveur et notre Seigneur. Et l'obéissance, c'est la première leçon que le chrétien doit apprendre. Hein, donc voilà, il faut se dire cela. Les bénédictions abondantes de Dieu suivent l'obéissance au commandement de notre Seigneur. Et ceux qui ne tardent pas à obéir, moi je m'aperçois que Dieu ne tarde pas non plus à agir à leur égard. Combien de fois j'ai eu l'occasion de vérifier cela, hein ? Nos actions sont liées. Nos actions sont liées. Hein, donc, vous voyez, tout à l'heure, Fabio a parlé du sport. Hein. Moi, j'ai rien contre le sport. Je pense que Dieu n'a rien contre le sport. La question, c'est que nos actions sont liées. Si je passe mon temps à faire du sport, il y a d'autres domaines dans lesquels je serai... De toute façon, il n'y a que 24 heures au jour. Hein, donc, il y a d'autres domaines dans lesquels... Voilà. Tandis que si je laisse le Seigneur à la première place, pourquoi pas pratiquer encore du sport, hein. La Bible n'a rien contre cela. Mais... le fait de mettre le Seigneur à la première place, ça va avoir une influence de bénédiction dans tous les domaines de ma vie, même dans le sport éventuellement, hein, si je suis appelé à en pratiquer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, celui qui sème l'iniquité, moissonnera l'iniquité. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voyez-vous ? Et ça, c'est particulièrement valable pour la question du baptême du Saint-Esprit aussi. Hein, on a eu l'occasion de parler un petit peu de cela aussi avec, lors de la réunion de préparation au baptême, parce qu'à ce moment-là, le nouveau converti, eh bien, il est ouvert. Il est ouvert, il a soif des choses d'en haut, il a soif de la plénitude de Dieu et de la plénitude et de la puissance du Saint-Esprit. Et certainement, une obéissance rapide et complète sera le meilleur moyen pour que nous puissions être puissamment enrichis par un puissant baptême du Saint-Esprit et ainsi bénis dans tous les domaines de notre existence. Amen. Hein, c'est ce que l'apôtre Pierre a démontré, prêché à la Pentecôte à la fin de sa prédication. Donc toute personne, et ça en conclusion maintenant, toute personne qui se dit ou qui se pense chrétienne, eh bien, devrait, je crois, effectivement, observer l'attitude de Jésus. Jésus qui s'est lui-même soumis au baptême par le moyen de Jean-Baptiste. Et rappelez-vous ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui disait, mais non. C'est pas toi qui dois être baptisé par moi. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et c'est vrai, il avait raison, Jean-Baptiste, quand il disait ça. Mais voilà ce que Jésus lui a répondu. « Laisse, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » C'est dans Matthieu chapitre 3 et au verset 15. Il est marqué « Jean ne lui résista plus. » Parce que Jésus, eh bien Jésus, le seul qui de tous les hommes n'aurait pas eu besoin de baptême, a voulu laisser devant nous un exemple et un modèle. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a fait. Hein, et quiconque vient de recevoir le salut a droit au baptême d'eau. Il doit effectivement être baptisé le plus tôt possible. Et pourquoi remettre en péril, je dirais, la sécurité spirituelle, le développement d'un nouveau converti? Pourquoi le priver de cette bénédiction? Pourquoi le priver des bienfaits du baptême qui va le fortifier, qui va l'établir, qui va constituer un bon fondement pour la suite de sa marche chrétienne afin que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Est-ce que tu as fait cette expérience du salut? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ pour qu'il te sauve? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur pour qu'il te dirige? Est-ce que tu as fait l'expérience de la vie nouvelle? Est-ce que tu as été visité par le Saint-Esprit? Voilà, ce sont des questions puissantes et fondamentales. Si ce n'est pas fait, eh bien, tu peux venir à lui. Tu peux venir à lui maintenant. Je lisais l'autre jour un petit témoignage amusant. Mais peut-être que certains ont eu l'occasion de vivre quelque chose de semblable un jour. Et ça a pour titre « C'est à toi d'agir ». C'était un de ces longs soirs d'hiver, froids et pluvieux, qui paraissaient interminables aux jeunes étudiants en vacances à la maison. Mon père et moi étions assis autour de la table de la salle à manger, jouant au plus fin devant notre jeu de dames familial. J'attendais que mon père pousse son pion. Il dégusta calmement son café pendant 5 minutes, puis 10. Je commençais visiblement à perdre patience. Au bout d'un quart d'heure, ne pouvant plus y tenir, je m'écriais sur un ton plaintif. « Mais enfin, papa, dépêche-toi de jouer. C'est mon tour après toi. C'est quand même pas agréable de jouer avec toi. » « Tu n'as pas vu, rétorqua mon père avec une désarmante gentillesse, que j'ai joué depuis longtemps. J'ai attendu pendant tout ce temps que tu joues à ton tour. » Ça vous est jamais arrivé, ce genre de choses? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de souhaiter que Dieu agisse? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes impatient peut-être, en trouvant qu'il semblait attendre trop longtemps? Bah oui, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Mais est-ce qu'il serait possible que Dieu ait déjà agi, que Dieu soit déjà intervenu et que Dieu attende que vous fassiez ce que vous avez à faire? Que vous agissiez à votre tour. Et alors, oui, c'est vrai, si vous le faites, eh bien Dieu interviendra, puis c'est la solution au problème. Bah oui, c'est comme ça, tout simplement. Il est important de savoir s'attendre au Seigneur. La patience est une vertu chrétienne. C'est quelque chose que nous avons besoin de développer tous. Mais il faut aussi incorporer notre foi dans le lancement de nos activités, si je peux dire. Et Dieu désire souvent intervenir, mais il doit tout d'abord attendre que nous fassions le premier pas en nous appuyant sur les promesses de sa parole. Vous savez, Dieu a déjà payé la rançon pour notre salut. Le pas suivant que nous devons faire, c'est de recevoir le don de Dieu qui est la vie éternelle. Ça, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Dieu a déjà prié pour que nous ne succombions pas. Le pas suivant, c'est que nous résistions au diable pour qu'il fuit loin de nous. Dieu a déjà envoyé le Consolateur promis, il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Le pas suivant, c'est que nous aspirions à être remplis du Saint-Esprit. Dieu a déjà promis le réveil, par exemple. Et le pas suivant, eh bien, c'est qu'on cherche sa face, c'est vrai, en nous éloignant de nos mauvaises voies. Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins. Et le pas suivant, eh bien, c'est que nous l'accomplissions en demandant avec foi. Amen. Les promesses de la parole de Dieu sont vraies, elles sont réelles. Dieu répond toujours à la prière. Quelquefois, sa réponse, c'est oui. Quelquefois, sa réponse, c'est non. Et bien souvent, sa réponse, c'est à toi d'agir. Voilà. Eh bien, que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es encore celui, c'est vrai, qui veut poser ta main salvatrice et bénissante sur chacune et chacun de ceux qui sont ici. Tu vois, tu connais le cœur de chacun, tu connais où nous en sommes chacun dans notre vie, tu connais les questions que nous pouvons avoir, tu connais vraiment notre situation personnelle, tu nous connais jusqu'au fond de notre propre cœur, Seigneur. Tu nous connais beaucoup mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Pour moi, en tout cas, c'est un grand réconfort, parce que ça veut dire que moi qui prie pour mes bien-aimés qui sont là, ses amis, ses frères et sœurs, moi qui connais un petit peu les uns, pas du tout les autres. Mais je sais que tu veux visiter et bénir chacun, suivant ce qui lui est salutaire, suivant ce qui lui est bénéfique. Merci Seigneur, merci mon Dieu, et merci parce que si maintenant il y a quelqu'un qui se tourne vers toi, si maintenant il y a quelqu'un qui aspire après les choses d'en haut, si maintenant il y a quelqu'un qui désire véritablement s'approcher de son Seigneur, eh bien tu veux aussi t'approcher de lui ou d'elle, et tu veux faire toute bonne œuvre en sa faveur. Merci Seigneur, c'est là mon assurance, c'est là ma joie, c'est là mon réconfort, c'est là ma motivation pour prier encore en faveur de chacune et de chacun. Tu connais toutes choses, tu connais chaque situation, tu connais chaque besoin, tu connais chaque cœur, Seigneur, et je te remercie. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es le Tout-Puissant pour te révéler, pour visiter, pour bénir, pour pourvoir à ce qui est nécessaire. Merci, notre Dieu. Sois glorifié, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous rappelle que nous avons un projet devant nous. Des réunions devant nous qui s'annoncent, nous espérons pouvoir les réaliser. Les histoires de couvre-feu, confinement et autres, là, Bon, donc quoi qu'il en soit, hein, donc, nous avons une réunion mercredi après-midi à 16h, donc c'est à cause du confinement qu'on la met là. Sinon, il y a aussi la prédication en ligne, hein, je vous le rappelle, sur notre site. Et puis le dimanche prochain, Dieu voulant, donc on aura le culte à 8h30 et l'autre à 10h45. Et nous croyons que le Seigneur fait encore son œuvre en faveur de chacun. Si y en a certains qui ont besoin de la prière, eh bien n'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous croyons que le Seigneur exauce, qu'il répond. Nous en avons des témoignages et des démonstrations régulièrement de sa part. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous raccompagne et vous soutienne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.